Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Y a-t-il des sujets de la Bible qui sont trop difficiles pour les nouveaux croyants? La Bible elle-même va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, c'est avec joie que je débute avec vous l'Épître de Paul aux Thessaloniciens. J'aime beaucoup ce que le Seigneur nous enseigne à travers son serviteur Paul. Et je crois qu'on va tous recevoir beaucoup de la merveilleuse parole de Dieu aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Où se trouve la ville de Thessalonique? Est-ce qu'elle porte le même nom aujourd'hui? Quand est-ce que l'église de Thessalonique a été fondée? Qu'est-ce qui a motivé Paul à rédiger l'Épître aux Thessaloniciens? Est-ce qu'il y a des sujets de la Bible qui sont trop difficiles pour les nouveaux croyants? Quels sont le thème et le but de l'Épître aux Thessaloniciens? Comment est-ce que l'espoir du retour de Jésus devrait affecter notre marche quotidienne? Qu'est-ce qui démontre l'authenticité de l'Épître aux Thessaloniciens? Est-ce qu'on peut mettre notre pasteur sur un piédestal? Est-il important que toute la Bible soit enseignée à une église? Que signifie l'expression « être en Dieu » ou « être en Jésus » Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous enseigner ce qu'elle dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, merci pour ce beau livre de la Bible qu'on débute aujourd'hui. Merci pour les trésors cachés que tu vas nous dévoiler aujourd'hui. Ces trésors que tu dévoiles à ceux qui t'aiment, Seigneur, et nous t'aimons. Et nous voulons mieux te connaître à travers ton enseignement aujourd'hui. Enseigne-nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous par ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du livre d'Ésaïe. Je vous encourage fortement à relire ce livre, à le méditer, surtout en prêtant attention à la grandeur et à la puissance de notre Dieu telles qu'elles y sont révélées. Aujourd'hui, nous revenons au Nouveau Testament et nous entreprenons l'étude de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Cette épître est l'avant-dernière des épîtres de Paul adressées à des églises. Les dernières épîtres de Paul dans le Nouveau Testament sont des épîtres pastorales destinées à des individus et non à des églises. L'ordre des épîtres de Paul dans le Nouveau Testament ne respecte pas l'ordre chronologique de leur rédaction. En effet, la première épître de Paul aux Thessaloniciens a été la première à être écrite. Elle l'a été en l'an 52 ou 53, approximativement. La ville de Thessalonique. Thessalonique était une colonie romaine. Rome ne traitait pas les pays conquis de la même façon que le faisaient d'autres nations. Par exemple, Rome a fait preuve de plus de sagesse que les États-Unis qui essaient d'américaniser tous les pays du monde comme si cela était la meilleure chose à faire. Plutôt que d'imposer sa culture aux autres pays, plutôt que d'essayer de changer leurs habitudes, leurs coutumes et d'imposer le latin aux nations qu'elles avaient conquises, Rome établissait des colonies dans des endroits géographiquement stratégiques. Une ville qui devenait une colonie romaine adoptait graduellement les us et coutumes romaines ainsi que les lois de Rome. Sur la place du marché, on retrouvait des vêtements et d'autres produits romains. En fait, les colonies étaient des petites répliques de Rome. Thessalonique était une telle colonie romaine et c'était une ville importante de l'Empire romain. Thessalonique se trouvait à 80 km à l'ouest de Philippe et à un peu plus de 300 kilomètres à vol d'oiseau au nord d'Athènes. La ville était au cœur de l'Empire romain et elle était la principale ville de la Macédoine. La ville a été d'abord nommée Therma à cause des sources thermales qu'il y avait dans la région. En 316 avant Jésus-Christ, Cassandre, un des quatre généraux qui se sont partagés l'empire d'Alexandre le Grand, a pris la Macédoine et s'est établi à Thessalonique. Il a renommé la ville en mémoire de son épouse Thessalonique, qui était la demi-sœur d'Alexandre. La ville existe toujours et elle a porté le nom de Salonique sous l'Empire ottoman. Ce nom est encore utilisé aujourd'hui. L'église de Thessalonique. L'église de Thessalonique a été fondée lors du deuxième voyage missionnaire de Paul et elle était une église modèle. L'apôtre Paul a dit de cette église, « En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7. L'église a été un bon exemple pour toute la région qui correspond à la Grèce moderne. De plus, dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul cite l'église de Thessalonique en exemple avec toutes les églises de la Macédoine. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 5. Rappelez-vous que l'apôtre Paul, ainsi que Barnabas, son compagnon d'œuvre, se sont séparés avant le départ de Paul pour le deuxième voyage missionnaire. Paul a pris Silas avec lui, et en route, Luc et Timothée se sont joints à lui. Il a visité les églises de la Galatie qu'il avait fondées lors de son premier voyage, et ensuite, il a essayé d'évangéliser dans le reste de l'Asie mineure, une région qui correspond à la Turquie moderne. Paul a toujours eu l'intention d'œuvrer dans cette région. En fait, lors de son troisième voyage missionnaire, il s'est établi à Éphèse, et de là, il a probablement accompli sa plus grande œuvre missionnaire. Cependant, lors de son deuxième voyage, l'Esprit ne lui a pas permis d'évangéliser en Asie mineure. L'Esprit l'a empêché d'aller vers le sud et ensuite d'aller vers le nord en Bithynie. Paul est donc allé vers l'ouest jusqu'à Troas et il a attendu les directives de l'Esprit. Dieu lui a donné une vision d'un Macédonien et il a donc traversé la mer Égée pour se rendre à Philippe. Là, il a rencontré une marchande de pourpre. L'Esprit a ouvert le cœur de cette femme et de d'autres personnes qui se sont converties en entendant la prédication de l'apôtre Paul. C'est ainsi qu'a été fondée l'église de Philippe. Ensuite, Paul s'est rendu à Thessalonique. Au chapitre 17 du livre des Actes, nous apprenons qu'il a prêché dans la synagogue pendant 3 sabbats. Certains déduisent de cet énoncé que Paul est demeuré à Thessalonique qu'environ 3 semaines. Cependant, Luc, l'auteur du livre des Actes, affirme seulement que Paul a enseigné dans la synagogue pendant 3 sabbats. D'autres érudits, en se fondant sur les versets 4 à 11 du chapitre 2 de la première épître aux Thessaloniciens, pense que Paul est demeuré beaucoup plus longtemps dans la ville. Pendant ce court temps, que ce soit quelques semaines ou quelques mois, il a accompli une tâche d'évangélisation herculéenne. Dieu a béni le ministère de Paul et de nombreuses personnes se sont converties. Pendant ces quelques semaines ou quelques mois, il a non seulement organisé une église locale, mais il a enseigné les grandes doctrines de la foi chrétienne. Ce qui a motivé Paul à rédiger l'épître. Paul et Silas ont dû s'enfuir de Thessalonique à cause de l'opposition des Juifs envers leur ministère. Chassés de la ville, ils se rendirent à Bérée, mais l'ennemi les a poursuivis dans cette ville et ils ont dû de nouveau reprendre la route. Paul a laissé Silas et Timothée à Bérée et il s'est rendu à Athènes. Il a passé un certain temps dans cette ville pour ensuite se rendre à Corinthe. Il semble qu'il était dans cette ville lorsque Silas et Timothée l'ont rejoint et lui ont apporté des nouvelles de Thessalonique. C'est ce que nous lisons dans 1 Thessalonique, chapitre 3, verset 6. Il se peut aussi que ce soit Paul qui ait envoyé Timothée prendre des nouvelles des Thessaloniciens. Timothée a aussi apporté des questions doctrinales à Paul de la part des chrétiens de Thessalonique. Paul a donc écrit sa première épître afin de répondre à ces questions, afin de clarifier les doctrines et afin d'encourager les Thessaloniciens. Paul a passé 2 ans à Corinthe. Il est probable qu'il ait écrit sa première épître tôt dans son ministère à Corinthe et la deuxième vers la fin de son ministère dans cette même ville. Après Corinthe, l'apôtre Paul est allé visiter Jérusalem. La première lettre a pu être écrite en l'an 52 et la deuxième en l'an 53. Aucun sujet n'est trop difficile pour les jeunes convertis. Bien que l'apôtre Paul ait passé très peu de temps à Thessalonique, il avait enseigné les grandes doctrines de l'Église, y compris le retour de Jésus-Christ. Paul n'a pas pensé que c'est un sujet trop difficile pour de jeunes convertis. Cependant, nous trouvons des églises centenaires dont les membres ont une compréhension vague de plusieurs doctrines profondes, dont celles qui touchent la fin des temps et le retour de Jésus-Christ pour établir son royaume. Paul avait traité de ces sujets avec une église qui était très jeune. Le thème de l'épître? Il est évident que Paul avait enseigné la doctrine du retour de Jésus-Christ. En effet, les croyants pensaient que le retour de Jésus-Christ ne tarderait pas. Cependant, depuis le départ de l'apôtre Paul, des croyants étaient décédés et cela soulevait des questions dans l'esprit des chrétiens de Thessalonique. Est-ce que cela signifiait que ces chrétiens ne seraient pas enlevés lorsque le Seigneur Jésus viendrait chercher son Église? Paul parle du retour de Jésus-Christ de façon à consoler et encourager les chrétiens, et c'est le thème principal de son épître. Ce que Paul nous enseigne au sujet de l'enlèvement contraste avec le retour apocalyptique de Jésus-Christ, alors qu'il viendra établir son royaume en abolissant toute injustice. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Le but de l'épître. Le but de cette épître comprend trois volets. Premièrement, affermir les jeunes convertis dans les fondements de la foi chrétienne. Deuxièmement, les encourager à persévérer dans une marche chrétienne exemplaire. Et troisièmement, les rassurer au sujet du retour de Jésus-Christ. Le message de Paul est totalement différent à celui du paganisme qui prévalait à Thessalonique. Une inscription païenne à Thessalonique se lisait ainsi. « Après la mort, pas de retour à la vie. Après la tombe, plus de réunion. » L'espoir divin a un effet purificateur sur nos vies. La première épître de Paul aux Thessaloniciens met l'accent sur l'enlèvement des croyants, la venue de Jésus-Christ pour retirer son Église du monde. Le fait que la venue de Jésus-Christ est un espoir de purification devrait nous encourager à marcher dans la sainteté et la piété. De nombreuses personnes aiment discuter de la prophétie, et le sujet soulève une certaine curiosité. Cependant, l'apôtre Jean nous dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Citation de 1 Jean chapitre 3, verset 3. L'espoir divin a un effet purificateur sur nos vies. Ce qui m'intéresse davantage, ce n'est pas combien enthousiaste vous pouvez être au sujet de l'enlèvement d'Église, mais comment vous marchez avec Dieu. Est-ce que cet espoir affecte votre marche quotidienne? Et est-ce qu'il influence visiblement votre vie? Dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, l'accent est mis sur le retour de Jésus-Christ afin d'établir son royaume. L'enlèvement des chrétiens pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus et le retour de Jésus-Christ pour établir son royaume sont deux événements distincts et différents. Selon les érudits, le deuxième groupe d'épîtres aurait été rédigé 5 ans plus tard. Ce groupe comprenait les épîtres aux Corinthiens, aux Galates et aux Romains. Les autres épîtres auraient été rédigées environ 10 ans après celles aux Thessaloniciens. Nous observons que le style des épîtres aux Thessaloniciens est plus simple, et celui des dernières épîtres plus recherché. Nous voyons aussi que Paul traite de différents sujets. Dans les épîtres aux Thessaloniciens, il répond à des questions de jeunes chrétiens zélés, par exemple, des questions au sujet du retour de Jésus-Christ. De plus, les Juifs s'opposent à ce que Paul évangélise les autres nations. Cependant, Paul encourage aussi les Thessaloniciens à s'abstenir de l'impudicité. Les Grecs païens se livraient à la débauche, car cela faisait partie des rituels religieux dans les temples. Par contre, dans les dernières épîtres de Paul, celles qu'il a écrites alors qu'il était en captivité à Rome, il dénonce les judaïsants, ceux qui veulent imposer la loi mosaïque aux chrétiens provenant des différents peuples autres que le peuple juif. Les problèmes de l'Église ont évolué depuis la conversion des Thessaloniciens. Les Juifs ne s'opposent plus à l'évangélisation, mais de faux docteurs juifs exigent que les païens convertis observent toute la loi mosaïque. l'apôtre Paul doit défendre la doctrine de la grâce de Dieu. Malgré certains problèmes, Paul a toujours éprouvé de la joie au sujet des églises de Macédoine, soit l'église de Thessalonique et l'église de Philippe. Le ton des lettres à ces églises indique une bonne relation entre Paul et les chrétiens de ces deux villes. L'authenticité de l'épître. Avant de débuter l'étude du premier chapitre, j'aimerais faire un petit commentaire sur l'authenticité de cette épître. En effet, de nombreux théologiens libéraux contestent l'authenticité d'une portion de l'Écriture, ce qui nous oblige à défendre leur authenticité. En fait, l'authenticité des épîtres de Paul aux Thessaloniciens n'a jamais été contestée par les pères de l'Église lorsqu'ils ont formé le canon, c'est-à-dire la liste des livres inspirés qui forment le Nouveau Testament. Si des pères de l'Église se sont questionnés au sujet de certains livres et qu'ils ont bien pris le temps de les examiner et d'enquêter avant de les reconnaître, cela n'a pas été le cas avec cette épître. Tous l'ont accepté. Le contenu de l'épître démontre aussi son authenticité. Elle correspond bien au contexte historique de celle-ci. Paul répond à des questions doctrinales que poserait une jeune église, et il ne traite pas des problèmes qui sont apparus plus tard. En effet, lorsque les Juifs ont cessé de s'opposer à l'évangélisation, ils ont essayé de soumettre les croyants des autres nations à la loi mosaïque. Le phénomène ne se manifeste pas encore dans l'église de Thessalonique. De plus, l'apôtre Paul n'a pas besoin de faire face au gnosticisme, cette doctrine qui disait qu'il était nécessaire de recevoir des révélations supplémentaires directement de Dieu. Seuls quelques initiés avaient cette connaissance supérieure. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Cette salutation est typique des épîtres de Paul, mais nous notons des différences qui méritent d'être soulignées. Paul joint Sylvain, Silas et Timothée à ses salutations. Silas et Sylvain sont la même personne. Silas est la forme grecque du nom raméen Shela, Sol. Il a dû adopter le nom latin Sylvain, le nom qui ressemblait le plus au sien. N'oublions pas que Sylvain et Timothée viennent de rapporter à Paul les nouvelles de Thessalonique. En joignant leur nom au sien, Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils sont tous d'accord avec le contenu doctrinal de l'épître. De plus, Paul révèle son caractère humble en associant le nom de ses hommes au sien. Si Paul ne s'était pas associé à Sylvain et Timothée, nous ne saurions absolument rien d'eux. Paul a posé un geste très noble. Paul s'identifie toujours à ses associés, ses frères dans la foi. Il ne s'était pas enfermé au sommet d'une tour d'ivoire, loin au-dessus des autres serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Ne mettez jamais votre pasteur sur un piédestal. Nous devrions nous rappeler de l'exemple de Paul en ce qui concerne le ministère. Ne mettez jamais votre pasteur sur un piédestal. Permettez-lui d'être l'un de vous. Ceux d'entre nous qui sommes pasteurs, nous sommes aussi responsables d'essayer de faire une distinction entre le clergé et les laïcs. Voici ce que racontait J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons le matériel. « Lorsque j'ai débuté dans le ministère, je me suis acheté une redingote, veste avec de longs pans en arrière, ainsi qu'un plastron, faux devant de chemise et un faux col. » Je portais le tout avec un nœud papillon noir ou blanc. Lorsque je montais en chaire, j'avais l'air d'une mule qui regarde au-dessus d'une clôture blanche. En fait, je me sentais comme une mule lorsque je m'accoutrais de la sorte. Un jour, je me suis rendu compte à quel point il était ridicule de m'habiller différemment des diacres et des membres de mon église. Aucun d'eux ne portait une redingote et je n'étais pas différent d'eux. Je ne crois pas que Dieu me demande de vivre d'une façon différente non plus. Cependant, lorsque j'enseigne la Bible, je dois être conscient du fait que je proclame sa parole et que j'agis en son nom. Il s'attend que ce soit ainsi avec tous ceux qui enseignent la Bible. Par contre, Dieu s'attend à ce que nous vivions tous dans la sphère de la relation personnelle avec lui. La vie d'un enseignant ou d'un pasteur ne doit pas être différente de la vie des autres croyants en Christ Jésus. Nous devons tous marcher dans la sainteté et la piété. Ce serait bien si nous éliminions la distinction entre le clergé et la laïcité, selon la parole de Dieu. C'est une fausse distinction. Dieu nous demande à tous de vivre dans un niveau élevé de sainteté et de piété, en relation personnelle avec lui. Deux situations malsaines dans une église. Oui, il y a deux situations qui sont très malsaines dans une église. La première est un ministre ou un pasteur qui travaille pour sa gloire personnelle. Une autre est un laïc qui tente de s'imposer comme une autorité en ce qui concerne la Bible, mais qui ne l'a pas vraiment étudiée et qui dérive doctrinalement. Une personne doit enseigner tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la Bible. Si une personne désire enseigner toute la vérité, elle enseignera sur tous les sujets de la Bible. Elle devra jouer avec toutes les touches du piano. Si une personne enseigne toute la Bible, elle évite le piège de mettre l'accent sur un thème à l'exclusion des autres, ou de s'arrêter uniquement sur son dada, c'est-à-dire son sujet favori. Nous avons besoin davantage de ce type de discipline dans nos églises de nos jours. Ce serait bien si toutes les églises s'assurent que l'on y enseigne toute la Bible. Les croyants sont en Dieu et en Jésus. À l'Église, des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Les chrétiens de Thessalonique ont peut-être des coutumes et des problèmes différents de ceux de l'Église de Philippe, mais tout comme l'Église de Philippe, l'Église de Thessalonique est en Dieu le Père et en Christ Jésus le Seigneur. Nous ne lisons pas cela dans la salutation des autres épîtres, parce que cette épître est la première que Paul a rédigée. Cependant, il élabore à quelques reprises cette doctrine importante et précieuse dans les autres épîtres, en particulier l'épître aux Éphésiens et l'épître aux Colossiens. Lorsque le Seigneur Jésus a prié son Père céleste, il a dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 17, les versets 21 à 23. Tout croyant est à la fois en Christ Jésus et en Dieu le Père. C'est l'endroit le plus sûr où nous pouvons nous trouver. C'est plus sûr que tout abri ou tout refuge terrestre. Que la grâce et la paix vous soient données. L'apôtre Paul utilise cette expression dans toutes les salutations de ses lettres. La grâce précède la paix de Dieu. Les deux viennent de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains, chapitre 5, verset 8. La grâce précède la paix. Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour les péchés des hommes. Maintenant, Dieu nous invite à être réconciliés avec lui. Si nous acceptons le don de sa grâce, il pardonne nos péchés et il abandonne sa colère contre nous. Avez-vous accepté ce don gratuit que Dieu vous propose? Acceptez-le. Dieu vous accueillera sans reproche. Ouvrez-lui votre cœur. Accueillez-le comme votre sauveur personnel. Il est prêt à agir maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 2 et 3.
Merci Régent. Quel encouragement de savoir qu'aucun sujet de la Bible n'est trop difficile pour les nouveaux croyants. Ça me rappelle les premiers jours après ma conversion. J'étais tellement emballée de pouvoir enfin comprendre ce que je lisais dans la Bible, alors qu'un an plus tôt, j'avais fait une tentative vaine de comprendre quelques versets dans la Genèse. Comme je vous l'ai déjà raconté, après avoir reçu le don gratuit de la vie éternelle, je suis retournée chez moi avec une Bible en main. Je me suis assise et je l'ai ouverte au premier chapitre de l'Évangile de Jean, tel qu'on m'avait suggéré de le faire. Et je comprenais. Et plus je lisais, plus j'avais envie de lire, à un point tel que j'ai lu les 20 premiers chapitres de cet Évangile dans la même soirée. J'ai donc lu le dernier chapitre le lendemain matin à tête reposée. Mes amis, ça n'a pas été long avant que j'aie lu tout le Nouveau Testament. Je l'ai donc lu deux fois avant de lire l'Ancien. Et depuis ce temps, j'ai lu toute la Bible plusieurs fois. Et je suis heureuse de dire que je n'ai pas passé une seule journée sans ouvrir ce livre précieux depuis le jour de ma conversion. Je vous avoue qu'il y a des jours où je n'ai pas le goût de la lire, mais je suis consciente du danger qui me guette d'éventuellement cesser de la lire si je ne m'impose pas moi-même cette discipline. Ce n'est peut-être pas comme ça pour tous les croyants, mais c'est ce qui fonctionne bien pour moi. Et parfois, ce sont des matins ou des soirs où je n'ai pas envie de lire que je suis le plus béni par mes lectures. Le Seigneur sait comment m'encourager. Aussi, je me dis que les jours où je n'ai pas envie de lire, ma lecture servira au moins à m'aider à retenir des versets, des passages qui me serviront plus tard dans certaines épreuves ou pour aider d'autres personnes qui auront besoin d'une parole d'encouragement. Alors, mon frère, ma sœur, comment vont tes temps de lecture de la parole de Dieu ces jours-ci? Lis-tu régulièrement? Médites-tu régulièrement? Sinon, tu pourrais recommencer dès aujourd'hui, même si ça fait longtemps que tu as laissé ce livre précieux sur une tablette. Le Seigneur va sûrement bénir ton effort de t'approcher de nouveau de lui. Et toi, mon ami, tu es peut-être de ceux qui sont comme je l'étais avant de connaître Dieu intimement. Tu as peut-être essayé de comprendre les récits de la Bible pour en conclure que c'était trop difficile. J'aimerais donc t'encourager à tourner tes regards vers Jésus, le Fils de Dieu, qui a pris un corps comme le nôtre afin de venir sur cette terre pour souffrir et mourir pour nos péchés. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse. Repens-toi, détourne-toi de tes péchés et tourne-toi vers Jésus. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il connaît la sincérité de ton cœur. Et si tu le fais, il va te sauver. Et à ce moment-là, son esprit va entrer en toi. Il va venir habiter en toi. Et il va lever le voile qui t'empêche de comprendre la Bible. Tu vas lire et tout comme moi, tu vas découvrir que c'est possible de comprendre la parole de Dieu. Parce que tu es maintenant un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et Dieu parle au cœur de ses enfants par la Bible.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.